En juillet 2010, à Los Angeles, des enquêteurs californiens identifient enfin un prédateur sexuel qui, pendant 25 ans, a assassiné des femmes innocentes. Ce tueur en série a laissé 10 victimes dans son sillage, jetant leurs corps dans des bennes à ordures et des allées perdues.
À ses yeux, elles ne valent pas mieux que des ordures. Il se débarrasse de déchets. Elles sont anecdotiques.
Un enquêteur de la police de Los Angeles, déguisé en serveur dans une pizzeria, s'apprête à acquérir la preuve qui leur permettra d'appréhender Lonnie Franklin Jr., l'homme que la presse surnomme le faucheur dormant.
Les médias adorent expliquer qu'on a récupéré son ADN sur sa part de pizza. Effectivement, on en a trouvé dessus. Mais on a prélevé la majeure partie de cet ADN sur les serviettes avec lesquelles il s'est essuyé la bouche.
Franklin assassine 7 femmes dans les années 80. Mais il s'arrête du jour au lendemain quand l'une de ses victimes survit. Franklin attendra 14 ans avant de reprendre son activité macabre en 2002.
Il sort de son hibernation et ses années d'inaction ne l'ont pas rendu moins cruel. Pendant cette période, il a appris, il est devenu plus sadique.
Un tueur en série rôde dans les rues de Los Angeles. Il frappe toujours, il faut qu'on le trouve et qu'on l'arrête.
Lonnie Franklin Jr., alias le faucheur dormant, s'éveille et devient l'un des pires criminels au monde. En juillet 2010, Lonnie Franklin Jr. est arrêté et accusé du meurtre de 10 femmes. C'est la fin de sa carrière de tueur après 30 ans de carnage. La presse a surnommé ce prédateur sexuel le faucheur dormant. Il tient son nom des 14 années qu'il a passé tapis dans l'ombre. S'il ne s'était pas remis à tuer, Franklin aurait pu passer entre les mailles du filet. Cliff Shepard, enquêteur criminel au sein de la police de Los Angeles, a fait partie de l'équipe d'investigation qui a retrouvé Lonnie Franklin.
La police de Los Angeles avait ouvert une division pour les affaires non résolues en novembre 2001. Depuis 1960, on avait alors entre 6 et 9 000 meurtres impunis.
Grâce aux analyses ADN, l'unité opérationnelle parvient à relier quelques meurtres au même tueur mystère. L'enquêteur Paul Coulter rejoint leur équipe en 2007.
Quand on travaille sur des enquêtes non résolues, c'est déjà dur de ressortir une vieille affaire et de se plonger dans les déductions d'autres enquêteurs. Nous, on devait examiner 10 enquêtes.
Devant tant de meurtres non résolus, on s'est dit qu'on pouvait se servir des nouvelles technologies pour réexaminer ces affaires et en résoudre quelques-unes. On s'est mis sur le coup.
Franklin sera rattrapé grâce à son ADN. Selon les experts, il aurait fait bien plus de victimes que celles qu'on lui attribue.
Lonnie Franklin est machiavélique. Quand on sort pour aller tuer au moins 15 ou 20 personnes, on l'est forcément. Pour moi, c'est évident qu'il n'éprouve aucune empathie pour les autres.
L'histoire de ce tueur en série commence à South Central, dans la ville de Los Angeles. Lonnie Franklin Jr. naît le 30 août 1952. Durant son enfance, il souffre de migraines récurrentes et il ne brille pas par ses résultats scolaires.
Ce n'était pas un garçon très intelligent. Pendant des années, il pouvait à peine lire et écrire. Mais il avait d'autres talents. Par exemple, son père, qui était un vrai papa poule, lui a appris à conduire quand il avait 7 ans. Franklin s'est découvert une passion dévorante pour les voitures.
Il a compris qu'il était doué pour les réparer. C'était quelqu'un de manuel, et cette capacité lui a fourni un travail, une identité. Mais il a aussi pu en tirer du prestige et des compétences sociales dont il allait se servir.
Le jeune Lonnie est un mécanicien accompli, mais il ne laisse pas non plus les dames indifférentes.
J'ai été frappée par son charme. Il savait très bien comment s'en servir. Il donnait l'impression aux femmes qu'elles étaient spéciales. Il flirtait avec, il les attendrissait. Et cette compétence allait se révéler très utile.
Mais son charme ne peut pas toujours le tirer d'affaire. À 16 ans déjà, il est mis deux fois en garde à vue pour vol de voiture. L'année suivante, il est arrêté pour cambriolage.
Son père, Lonnie Senior, a sûrement pris peur en le voyant devenir un délinquant. Dans l'espoir de remettre son fils sur le droit chemin, il lui propose de l'envoyer à l'armée.
Au printemps 1974, à 21 ans, il est stationné dans la ville de Stuttgart, en Allemagne. Cette recrue américaine se voit confier le rôle de cuisinier, mais son appétit pour le crime ne se tarit pas. Et ses futures victimes n'y échapperont pas.
Dans la nuit du 16 avril 1974, il décide de violer une femme avec deux de ses camarades. Il tente une première fois d'entraîner une jusqu'à leur voiture, mais ils échouent. Une heure plus tard, il capture une jeune fille de 17 ans et la menace avec un couteau. Sans surprise, Lonnie Franklin, passionné de voitures, est le chauffeur attitré.
La victime se rapproche de Franklin, espérant faire tomber ses assaillants aux mains de la justice.
Après les atrocités qu'ils lui font subir, elle les convainc de la ramener chez elle. Mais elle laisse aussi son numéro de téléphone à Franklin, en croisant les doigts pour qu'il la contacte.
Contre toute attente, Franklin rappelle cette femme dès le lendemain. Ils se donnent un lieu de rendez-vous, mais c'est la police qui vient à sa rencontre.
C'est comme ça qu'il se fait juger pour enlèvement, viol et tentative d'enlèvement. Et il est condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Mais il ne purge pas sa peine en Allemagne. On l'oblige à retourner en Amérique.
Renvoyé de l'armée en mai 1976, Franklin retourne à Los Angeles à 23 ans. De retour dans sa ville natale, Franklin a une chance de se racheter. Il se construit bientôt une image de gentil voisin soucieux de sa famille.
Il vivait dans une famille qu'on peut qualifier de conventionnelle. Un père, une mère, une fille et un fils. C'est une famille nucléaire classique, voire banale. Mais Franklin ne rentre pas dans le cadre. Il n'arrive pas à se ranger. Il change de boulot comme de chemise. Avant d'être rattrapé par son amour pour l'automobile, il devient finalement employé de garage pour la police de Los Angeles.
Mais Franklin et une vie au service de la loi ne font pas bon ménage. En 1982, à son entrée dans la trentaine, il change de travail. Son nouveau poste l'aidera dans sa future vie de criminel.
Il a quitté le département de police pour rejoindre celui du ramassage d'ordures.
C'était un éboueur. Il ramassait les poubelles de son quartier. Ce n'était pas un job palpitant, mais grâce à lui, il a arpenté les allées de Los Angeles et de l'endroit où il vivait jusque dans leur moindre recoin. Il connaissait la ville comme sa poche.
En 1992, le quarantenaire se blesse au bras et ne peut plus travailler. Il demande alors des prestations d'invalidité. Lonnie Franklin semble jusqu'ici mener une petite vie tranquille aux côtés de son épouse et de ses deux enfants au West 81st Street. Il a l'air de se tenir loin des rues meurtrières du Los Angeles des années 80.
À l'époque, le taux de criminalité de la ville de Los Angeles était élevé. On y relevait entre 800 et 1100 meurtres par an.
On manquait d'enquêteurs pour couvrir toute la zone. On en avait peut-être 135 sur les affaires d'homicide. On avait la tête sous l'eau.
La ville est aux mains des gangs et des barons de la drogue. Mieux vaut se tenir à l'écart si on est vulnérable.
Le plus gros problème, c'était la cocaïne. La coke circulait rapidement. Les gosses comprenaient qu'ils pouvaient gagner pas mal d'argent s'ils vendaient de la cocaïne dans un coin de rue, au lieu d'aller à l'école et de travailler dur. À force, il y a eu une montée de la violence. Beaucoup de monde est devenu addict. Les femmes n'étaient pas en reste et cela augmentait leurs chances de se faire assassiner.
Parmi les centaines de meurtres recensés en 1985, on compte celui d'une serveuse de cocktail de 29 ans, Debra Jackson, qui rendait visite à une amie un soir d'août.
Debra Jackson a été vue pour la dernière fois quittant son domicile. Elle est montée dans un bus sur la route Imperial Highway sans que l'on sache où elle se rendait. On a retrouvé son corps quelques jours plus tard entre les avenues Gage et Vermont, caché sous des débris dans une petite ruelle.
Les preuves trouvées sur le lieu du crime indiquent que le meurtre de Debra serait à caractère sexuel. Cette jeune femme de 29 ans a été assassinée, cela ne fait aucun doute. L'autopsie révèle qu'on lui a tiré 3 fois dans la poitrine.
Si l'on suit la trajectoire des balles, on comprend qu'elles ont été tirées vers le bas. Donc le tueur est placé au-dessus de la victime. Il se considère comme supérieur à elle. Elle lui est soumise. On n'a pas retrouvé de carte d'identité sur la victime, donc le tueur lui retire son identité. Il veut qu'elle ne garde que celle qu'il lui attribue. C'est ça qui est sordide dans cette affaire.
En janvier 1987, la police est avertie de la découverte d'un nouveau corps dans les rues du quartier de South Central.
Oui, je veux signaler un meurtre. Il y a un cadavre.
Où ça ?
Il est au 1346 East, dans la 56e rue, dans l'allée. On dirait qu'il l'a jeté et la seule chose qui dépasse... En fait, il a mis un réservoir au-dessus d'elle. Et on ne voit que ses pieds.
Une jeune fille de 23 ans, Barbara Ware, est tuée de la même manière que Debra Jackson, d'une balle dans la poitrine. Avant novembre 1988, les enquêteurs découvrent au total 7 femmes victimes d'un meurtre à caractère sexuel, toutes abandonnées dans des conditions similaires.
Ils ont relevé qu'il s'agissait de balles de même calibre, de même type, de même série. Ils se sont mis à les comparer et ils ont découvert qu'on retrouvait ces balles à travers différents cas, toujours tirées par le même pistolet. Au bout du deuxième ou troisième meurtre, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un tueur en série qui avait assassiné toutes ses filles.
Un prédateur sexuel rôde dans les rues de Los Angeles et il a déjà ôté la vie de 7 jeunes femmes. La nuit du 19 novembre 1988, ce criminel se lance à la recherche d'une 8e victime potentielle. Et il croise la route d'Enitra Washington, une trentenaire et mère de 2 enfants.
Selon ses dires, elle se trouvait près de la Normandy Avenue lorsqu'un homme l'a accostée. Il était au volant d'une Ford Pinto orange. Elle se souvient bien de la voiture. Elle était bien entretenue. L'homme a engagé la conversation et il lui a proposé de la déposer. Elle a d'abord refusé son offre, mais il ne s'est pas démonté. Il a tellement insisté qu'elle a fini par accepter, en se disant qu'il avait l'air sincère.
Elle monte dans son véhicule et il redémarre. Mais il tourne dans la 81e rue et se gare en lui disant qu'il doit aller retirer de l'argent.
Ce conducteur anonyme pénètre dans une maison, puis il revient après quelques minutes et reprend la route. À cet instant, Enitra Washington ne se doute pas encore qu'elle n'arrivera jamais à destination.
Il tend son bras, elle entend un coup de feu et sent une douleur fulgurante lui traverser la poitrine. Elle n'a pas aperçu le pistolet. Elle n'a vu que l'éclat de la balle et elle comprend qu'il lui a tiré dessus. Elle perd connaissance plusieurs fois. Elle le supplie de l'emmener aux urgences. De son côté, il continue de rouler puis il se gare. Il sort un appareil photo, une sorte de Polaroid. Et il la prend en photo avant de la violer.
Cette fois-ci, le tueur ne se débarrasse pas d'Enitra en la jetant dans une poubelle ou dans une petite ruelle, comme il l'a fait pour ses autres victimes.
Il se contente de la pousser de son siège comme si elle était déjà morte. On peut comparer son geste à la manière dont on se débarrasse d'un détritus. C'est un déchet qu'il jette sur le bord de la route.
Enitra est encore vivante. Aux portes de la mort, elle se traîne jusqu'au domicile d'une amie vivant dans les environs. Elle est ensuite transportée au centre médical Arbor UCLA, dans la ville de Torrance.
Les événements qu'elle décrivait concordaient avec les indices relevés sur le corps des victimes. Ces femmes avaient toutes été touchées à la poitrine gauche. Les points d'entrée des balles étaient à gauche ou à droite, de l'avant vers l'arrière, légèrement inclinés vers le bas. La tentative de meurtre d'Enitra nous a servi de modèle pour comprendre ce qui était arrivé à ces femmes.
Les chirurgiens parviennent miraculeusement à lui sauver la vie. Enitra a perdu 1/5 de son sang. La balle qu'ils extraient de son corps est du même calibre que celle retrouvée sur les 7 victimes de ce meurtrier.
Enitra aurait dû mourir. Je ne sais pas comment elle a réussi à survivre. Son heure n'était peut-être pas encore venue.
Elle a donné une description extrêmement précise du chauffeur à la police, mais ça ne les aidait pas beaucoup. Un homme noir dans la trentaine, de taille moyenne, ça pouvait correspondre à de nombreux individus du quartier de South Central de Los Angeles.
Le tueur s'arrête dans sa lancée en apprenant la nouvelle de la survie d'Enitra.
Il ne s'attendait probablement pas du tout à ce qu'elle survive. Il se retrouve mis en danger par cette victime bien vivante, qui a passé du temps en sa compagnie, qui a dû remarquer certaines choses dans son comportement, sa personnalité, sa voiture. Elle pouvait sûrement l'identifier. Je pense qu'il a paniqué et qu'il a décidé de se faire oublier pendant un moment pour se protéger.
Ses meurtres cessent. Il entretient son image de gentil voisin, de bon père, de mari exemplaire auprès de sa communauté. Il se cache en pleine lumière. On le croit volatilisé.
La police tourne en rond. Elle ne met pas la main sur le responsable de ces 7 meurtres et d'une 8e tentative auprès d'Enitra Washington. Treize années passent. Au cours de l'année 2001, une adolescente de 15 ans, Princess Berfomew, disparaît à South Central. Maltraitée dès sa naissance, Princess a ensuite grandi en famille d'accueil auprès de Samara Erhard.
Je suis la sœur de Princess. Je préfère ce terme à celui de sœur adoptive. Princess a rejoint notre famille lorsqu'elle a été placée en foyer. Son dossier était l'un des pires cas de maltraitance infantile qu'ils aient vu à LA pour l'époque. Ses parents étaient atroces. Ils l'avaient complètement brutalisée. Elle a passé des mois à l'hôpital pour se remettre de leur traitement. On l'a accueillie quand elle avait 2 ans et demi. Et il a fallu qu'on lui apprenne à parler et à marcher. Ses anciens parents la maltraitaient au lieu de s'occuper d'elle.
À la mort de la mère de Samara, Princess doit quitter cette petite famille prospère de Claremont, en Californie. À 10 ans, elle est séparée de sa sœur et confiée à une autre famille de South Central, à Los Angeles.
On ne pouvait pas s'opposer à cette décision, alors on a essayé de voir le positif. On lui a dit qu'elle pouvait compter sur nous, et ils l'ont transférée à LA. J'imagine qu'ils l'ont mise dans l'une des seules familles capables de l'accueillir.
Malgré cette séparation, les deux sœurs restent en contact. Princess ne se plaît pas dans son nouveau foyer et essaie de fuguer en vain. Samara prend peur à l'idée qu'il lui arrive quelque chose.
Je lui ai dit de se concentrer sur un objectif, de bien réfléchir, d'être gentille, de faire ce qu'on lui disait de faire. À ses 18 ans, elle pourrait faire ce qu'elle voudrait. Elle pourrait revenir vivre avec moi si elle le voulait. Mais d'ici là, elle ne devait pas faire de vagues et bien se comporter. Elle m'a répondu « Oh, d'accord ». Je lui ai parlé pour la dernière fois, fin octobre ou début novembre. Elle a fugué une deuxième fois en décembre. On a retrouvé son corps en mars.
Princess Berfomew meurt tragiquement, âgée de 15 ans à peine.
Il arrive que des fugueurs aient la chance de trouver une vie meilleure. Mais en errant dans Los Angeles à cette époque, ils avaient bien plus de chances de tomber sur des hommes mal intentionnés. Le cas de Princess nous donne tristement raison.
C'était une petite fille qui prenait mes fils sur son dos et faisait le cheval à 4 pattes. Et ils adoraient ça. C'était une brave fille. Excusez-moi. Elle ne méritait pas ça. C'est trop cruel. Elle méritait bien mieux.
Plus d'un an après la découverte du corps de l'adolescente, une autre victime, en juillet 2003, se retrouve liée à la mort de Princess par l'ADN qu'on relève sur elle.
Valerie McCorvey est retrouvée à quelques pas d'une école, sur une route adjacente à une petite allée. C'est un agent municipal qui l'a trouvée là, au petit matin. Elle était entièrement habillée, mais sa poitrine était exposée. Elle était visiblement morte, étranglée par une cordelette, avant d'avoir été balancée sur le bas-côté.
Contrairement à leurs prédécesseurs des années 80, les enquêteurs peuvent cette fois-ci utiliser de nouvelles technologies pour examiner d'anciens indices. En investiguant le meurtre de Valerie McCorvey, 35 ans, l'équipe des affaires non résolues de la police de Los Angeles ne s'attend pas à faire une telle découverte.
L'ADN qu'on trouve sur le corps de Valerie McCorvey correspond à celui de meurtre qui remonte à plus de 10 ans. Cet indice nous confirme que le tueur sévit encore et qu'on ne connaît ni son identité ni l'endroit où il se cache.
Après 14 années d'absence, le criminel reprend du service. Sa liste de victimes dénombre désormais 9 femmes, en comptant les meurtres de Princess et de Valerie McCorvey.
On m'a raconté ce qui lui était arrivé. Cet homme a fait monter Princess dans sa voiture. Je ne dirai pas son nom. Ensuite, il l'a violée et il l'a étranglée.
Le tueur réinvente son mode opératoire. Au lieu de tirer sur ses victimes comme en 80, il leur ôte la vie de ses propres mains.
Il a changé de méthode avec Princess Berfomiu. Ses meurtres deviennent plus intimes. Il tue à main nue, par strangulation. On la retrouve nue. Cela nous indique qu'il ne se déplace plus en voiture. Il veut se rapprocher d'elle.
La presse apprend que la police de Los Angeles pourchasse un prédateur sexuel qui récidive après 14 ans d'absence. Elle lui attribue un surnom macabre, le faucheur dormant. Fin 2006, l'enquêteur assigné à ses affaires, Cliff Shepherd, désespère. Il cherche à identifier le meurtrier depuis plus de 3 ans. L'indice qu'il attendait arrive à la nouvelle année lorsqu'on lui confie un nouveau meurtre.
Janvier 2007, au lendemain du nouvel an, le corps d'une femme nommée Janisha Peters est retrouvé dans une allée à quelques pas de l'endroit où Bernita Sparks avait été tuée 20 ans plus tôt. Mais il a fallu attendre avril pour qu'on nous confirme qu'il y avait bien une correspondance ADN avec les anciens meurtres.
Assassinée d'une balle dans le dos et cachée dans un sac poubelle, Janisha Peters devient la 10e victime du faucheur dormant. 22 ans après le meurtre de Debra Jackson en août 1985, la police n'arrive toujours pas à débusquer ce mystérieux tueur.
Il est tout aussi cruel qu'avant, mais il a vieilli et il a appris de ses erreurs. À en juger par son modus operandi, il est devenu bien plus sadique.
Un tueur en série rôde dans les rues de Los Angeles et il sévit encore. On n'a aucune idée de qui il pourrait être. Il faut qu'on le retrouve et qu'on l'arrête, seulement aidé d'une vague description.
La mission semble impossible. Les enquêteurs n'ont qu'un portrait robot basé sur les dires d'Enitra Washington. Et il remonte à 20 ans. Mais ils sont convaincus qu'ils connaissent la voix du tueur, grâce à l'enregistrement de l'appel passé aux urgences en 1987. Cet appel a été émis en janvier 1987, après le meurtre de sa 3e victime, Barbara Ware.
Oui, je veux signaler un meurtre. Il y a un cadavre.
Où ça ?
Il est au 1346 East, dans la 56e rue, dans l'allée.
On a récupéré l'enregistrement de la conversation de l'époque. On entend un homme parler à une opératrice du 911. Il dit qu'il y a un van bleu et blanc dans l'allée, qu'un homme en a sorti un cadavre et qu'il l'a recouvert de débris. Il relève aussi la plaque d'immatriculation. Lorsqu'on lui demande de décrire le conducteur, il dit qu'il ne l'a pas vu.
On dirait qu'il l'a jeté et la seule chose qui dépasse, en fait, il a mis un réservoir au-dessus d'elle. Et on ne voit que ses pieds.
S'il avait vraiment vu ce qu'il prétendait, il devrait être tout près du van. Ça n'avait aucun sens. C'était donc le meurtrier qui appelait. On ne connaissait que sa voix. À l'époque, on trouvait encore des cabines téléphoniques. On ne savait pas d'où il avait passé l'appel. Je pense que la cabine téléphonique la plus proche qu'on ait trouvée était dans la rue d'à côté.
Ok, comment vous appelez-vous ?
Hein ?
Votre nom, s'il vous plaît.
Non, je connais trop de monde. Allez, au revoir.
Il a des réactions de pyromane. Il tue des femmes, il s'en débarrasse, il appelle les urgences, puis il profite du spectacle. Il regarde la police et les secours s'affairer sur la scène du crime qu'il a commis. Et en faisant ça, il apprend des choses sur les procédures policières.
Seul un homme d'une extrême vanité agit comme ça. Ils volent la vie d'une pauvre jeune femme qui n'avait rien demandé, pour son propre plaisir sexuel. Puis il a le culot d'appeler la police et de leur indiquer l'emplacement du corps.
En 30 ans, ce criminel a éliminé 10 femmes. Et les enquêteurs ne parviennent toujours pas à lui mettre la main dessus, malgré une récompense astronomique de $500 000. Mais la police scientifique n'a pas dit son dernier mot. Elle espère identifier le faucheur une bonne fois pour toutes grâce à un nouvel outil.
L'ADN de parentèle est un outil très récent et très pratique. La police peut ainsi chercher un profil dans leur banque de données et ils n'ont pas besoin de trouver une correspondance à l'identique. Il leur suffit de tomber sur un membre de la famille du délinquant qu'ils cherchent à retrouver. De cette manière, ils peuvent établir un lien.
Dans leur banque de données de reprise de justice, les enquêteurs cherchent à établir une concordance avec un homme parmi ses proches.
Tous les hommes possèdent un chromosome Y. J'ai le même profil que mon père, que mon grand-père, et ainsi de suite. Mes frères partagent aussi ce profil. Donc, les enquêteurs séparent ce chromosome Y, le chromosome mâle, du profil ADN du suspect.
En juillet 2010, les enquêteurs arrivent à un résultat concluant. Un homme nommé Christopher Franklin a été arrêté en 2009 pour détention d'armes et son ADN ressemble à celui du tueur.
Il a plaidé coupable pour la possession d'un fusil. Ça a fait de lui un repris de justice. Comme le veut la procédure, on lui a prélevé de l'ADN et on a entré l'échantillon dans la banque de données en question.
L'équipe peut enfin faire progresser l'enquête. L'échantillon ADN vient de prouver que Christopher possède un proche masculin qui n'est autre que le faucheur dormant. Les enquêteurs finissent par retrouver la trace de son père, Lonnie Franklin Sr., qui vivait au West 81st Street, la même route qu'a mentionné Anitra Washington dans son témoignage 22 ans auparavant.
Lorsque nous avons retrouvé l'adresse de son père, on a su qu'on le tenait. Son père vivait sur la 81e rue. Et Anitra Washington nous a confié avoir été emmenée là-bas. Elle nous a dit que son assaillant était sorti de la voiture et était entré dans son domicile pour aller chercher quelque chose. On a retrouvé la plupart des victimes dans le quartier Ouest. Comme par hasard, cet homme vit à côté. Ce sera probablement notre tueur.
Si l'on place des aiguilles sur une carte, on se rend tout de suite compte qu'il s'agit de son terrain de chasse. Il vit là-bas. Il doit connaître toutes les allées et les bennes à ordures du coin. Et sans surprise, il ne les connaissait que trop bien.
Lonnie Franklin, ancien éboueur, mène une double vie depuis près de 25 ans. Cet homme de 57 ans est responsable du meurtre d'une dizaine de jeunes femmes. Mais aucun voisin ne se doute que ce bon père de famille est un tueur sanguinaire.
Dans son quartier, il avait la réputation d'être un gars sympa, à qui on pouvait demander de réparer sa voiture si elle avait un problème.
En apparence, Franklin est un homme sympathique et sans histoire. Il se fond dans le décor et n'attire pas l'attention sur lui. Mais tout bon tueur en série se doit d'être un caméléon. Il doit passer inaperçu.
Grâce à son ancienne profession, Franklin a repéré les recoins les plus déserts de Los Angeles.
En travaillant pour le service de voirie, Franklin a appris à connaître les zones de la ville que la population lambda ne fréquentait pas. Il voyait bien si une rue était animée ou calme lorsqu'il ramassait les poubelles. Il a mémorisé le rythme de vie et la disposition de la ville pour s'en servir au mieux et gagner du temps. Il connaissait les trajets des différents camions poubelles, les emplacements des décharges, la profondeur à laquelle on enterrait certaines ordures. Ce sont des informations utiles pour cacher des corps.
Les enquêteurs placent immédiatement Franklin sous surveillance.
Une nuit, on l'a vu monter dans sa voiture et faire des allers-retours dans tout le quartier Ouest, ce qui nous a posé problème. Il parlait à des femmes, et l'équipe de surveillance nous a demandé si l'on voulait qu'ils interviennent. On n'allait quand même pas le laisser embarquer une autre femme sous notre nez. Heureusement, une voiture de patrouille s'est engagée dans la rue et l'a éclairée de ses phares. Elle lui a ordonné de partir et il s'est exécuté. Il n'a pas fait de victime cette nuit-là, mais ça nous a mis sur le qui-vive. On ne voulait pas qu'il commette un nouveau meurtre si facilement.
Les enquêteurs ont besoin de récupérer un échantillon de l'ADN de Franklin, afin de prouver qu'il est bel et bien coupable. Lorsque l'homme de 57 ans s'installe dans un restaurant italien, le 5 juillet 2010, la police saute sur cette occasion en or.
L'un des membres de notre équipe de surveillance s'est fait passer pour un employé de ce restaurant. Il a pris son assiette pour la nettoyer, mais il a aussi emporté ses restes de pizza. Il les a mis de côté et les a confiés à notre labo. Il nous a fallu 3 jours pour analyser ces morceaux.
Les médias adorent expliquer qu'on a récupéré son ADN sur sa part de pizza. Effectivement, on en a trouvé dessus, mais on a prélevé la majeure partie de cet ADN sur les serviettes avec lesquelles il s'est essuyé la bouche.
Il n'y avait plus aucun doute. L'ADN récupéré correspondait parfaitement. C'était une preuve irréfutable. Lonnie Franklin était l'homme qu'on cherchait.
Le faucheur dormant fait vivre un cauchemar aux habitants de South Central depuis des décennies. Mais il est temps pour lui de revenir à la réalité.
Pendant 20 ans, il a pu assassiner des femmes sans être inquiété, au point de prévenir la police de ses meurtres et d'en rire. Je pense qu'il a passé son temps à nous narguer, en se pensant plus malin que nous. Il continue son train-train quotidien à Los Angeles, et la police le trouve en train d'arroser son jardin lorsqu'elle l'interpelle.
On s'est approché, on s'est présenté à lui. On a dit qu'on avait un mandat d'arrêt à son nom. Il était très calme. On lui a expliqué que d'autres enquêteurs allaient l'emmener au commissariat, qu'on le retrouverait là-bas et qu'on lui expliquerait tout.
Lonnie Franklin Jr., le faucheur dormant, est enfin derrière les barreaux.
Notre soulagement était immense. On avait l'impression d'avoir fait notre boulot. Jusque-là, nos efforts n'avaient jamais été récompensés. S'il n'y avait pas eu d'avancée technologique autour de l'ADN, je ne sais pas si on l'aurait attrapé un jour.
L'ADN de Franklin le relie au cadavre des femmes. Mais les enquêteurs doivent prouver son implication dans leur meurtre. Ils savent que la culpabilité de Franklin doit être sans équivoque pour pouvoir classer l'affaire du faucheur dormant une bonne fois pour toutes. Ils se mettent alors en quête d'indices à son domicile, au West 81st Street.
Je ne sais pas si ça a été l'une des plus grosses perquisitions de l'histoire de la police de LA. En tout cas, ça a été l'une des plus grosses fouilles de ma carrière. Ça nous a pris 3 jours pour tout retourner.
Le garage de Franklin renfermait près de 800 preuves. La police a dû ériger une tente sur la pelouse devant la maison pour les trier. Les policiers ont trouvé des appareils photos, des téléphones, des photographies, de l'argent, des sous-vêtements. Ça a été un travail laborieux de catégorisation et d'enregistrement de toutes ces preuves pour l'enquête.
Les enquêteurs cherchent une preuve bien précise, évoquée par une femme qui a réchappé des griffes de Franklin en 1988.
Anitra Washington nous a dit que le suspect, Franklin, l'avait prise en photo avec un Polaroid après l'avoir violée. On s'est demandé quel genre d'homme pouvait bien prendre en photo une femme dont il venait d'abuser. Pourtant, on a effectivement retrouvé des photos Polaroid. L'une d'entre elles montrait Anitra Washington avec une balle dans la poitrine.
C'était un indice extrêmement important. Franklin avait bel et bien été en contact avec elle. Dans un mini-frigo de son garage, il y avait également une photo de Janicia Peters qui souriait avec la poitrine à demi nue. Ces photos sont très compromettantes. Et Franklin les a prises pour sa satisfaction personnelle, pour revivre les actes qu'il a commis. Mais ces mêmes photos allaient maintenant causer sa perte. Elles étaient devenues vitales dans sa condamnation.
Les fouilles entreprises dans le garage de Franklin révèlent des centaines d'autres clichés Polaroid de femmes diverses.
On n'a aucune idée d'où elles se trouvent. On n'a jamais retrouvé leur corps. Elles ne sont jamais réapparues ni n'ont contacté leur famille. Je suis persuadé qu'elles ont été assassinées, mais qu'a-t-il fait d'elles?
Pendant que les fouilles se poursuivent, Lonnie Franklin attend en garde à vue. L'enquêteur Paul Coulter est chargé de s'entretenir avec l'ancien éboueur de 57 ans.
Pendant un interrogatoire, vous devez absolument rester professionnel avec la personne en face de vous, même si elle est monstrueuse. Vous ne pouvez pas laisser paraître vos émotions.
Mais Lonnie Franklin refuse d'avouer quoi que ce soit.
Je vais vous montrer une photo d'une jeune femme et vous allez me dire si vous la reconnaissez.
Non.
Vous ne l'avez jamais vue avant?
Non, jamais.
Il a dit qu'il ne reconnaissait aucune des femmes des photos placées devant lui. Il a nié connaître les victimes. Alors je lui ai dit, donc c'est une coïncidence si on a trouvé votre ADN sur elle. Il m'a répondu qu'il ne la connaissait pas. On a passé en revue toutes ces femmes et il a nié jusqu'au bout.
Vous avez quelque chose à m'avouer?
Non, désolé, je ne connais pas ces gens.
Mais comment votre ADN a pu se retrouver là? Par quelle logique?
Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment mon ADN s'est retrouvé là-bas.
Je ne connais pas ces femmes, je ne les ai jamais vues. C'était un mensonge qu'il avait appris par cœur. C'était le genre de choses qu'il avait l'habitude de dire à la police par le passé. Cela devait être très frustrant de l'interroger après avoir enquêté sur tous ces meurtres.
En juillet 2010, malgré son manque d'aveu, Lonnie Franklin Jr. est accusé du meurtre de 10 femmes et d'une tentative de meurtre sur la personne d'Enitra Washington. Après de nombreux reports, le procès se déroule finalement au centre de justice pénale Clara Shortridge Falls en février 2016. Franklin plaide non coupable pour chaque accusation. Samara Erhard, la sœur de Princess Berfomew, la victime de 15 ans, se trouve dans la salle d'audience.
J'allais la représenter parce que quelqu'un se devait d'être là pour elle. Il n'y avait que moi. Mais je voulais que tout le monde sache que sa vie avait eu de la valeur, que c'était une fille si douce, une enfant si gentille qui ne méritait pas un tel sort.
L'accusation a en sa possession de nombreuses preuves, y compris les analyses balistiques et l'ADN de Franklin retrouvés sur les corps et les sacs poubelles, confirmant qu'il en est bien l'auteur.
À mes yeux, la preuve la plus évidente de ce procès était la photo Polaroid d'Enitra Washington, retrouvée dans son garage. Il n'y a aucun moyen d'expliquer sa présence. Les photos de Janisha Peters au même endroit sont tout aussi compromettantes.
L'accusation appelle à la barre 40 témoins au cours des 3 mois que dure le procès. Les preuves qui accablent l'homme de 63 ans ne manquent pas. En mai 2016, le jury reconnaît Lonnie Franklin coupable de toutes les charges qui l'incriminent. Lors de l'audience de détermination de peine qui se tient en août, les familles des victimes ont l'opportunité de confronter Franklin dans la salle d'audience.
Et chacun d'entre eux s'est placé devant Franklin et lui a dit ses 4 vérités. L'un d'eux l'a traité d'incarnation du mal. C'est un terme bien choisi.
Il n'avait pas l'air d'être rongé par le remords. On avait plutôt l'impression de le déranger. Je me suis dit que je parlais au suppôt de Satan. C'était un vrai détraqué. Il ne comprenait même pas la gravité de ce qu'il avait fait. Il a détruit la vie de tous ces gens et il se contente de faire la moue. Il nous a blessés au plus profond de notre être. Et il a l'audace de nous regarder comme ça.
Pour prendre sa revanche, Enitra Washington accepte de se présenter. Celle qui a survécu au tir de Lonnie Franklin 30 ans auparavant se retrouve une nouvelle fois face à son agresseur. Mais cette fois-ci, c'est elle qui le tient à sa merci.
Parler à la barre a dû être traumatisant pour Enitra Washington. Elle a dû parler d'un événement qui a sûrement eu une incidence sur son quotidien, ses relations et sa perception des hommes. La confiance qu'elle place en d'autres personnes. Mais elle est venue confronter Franklin et lui dire qu'elle sait qu'il a voulu la tuer, qu'il l'a attaquée, qu'il l'a violée. C'était très brave de sa part. Elle n'était pas là pour présenter une preuve accablante, mais pour révéler au grand jour l'homme misogyne qu'il était.
Suivant ses témoignages de proches affectés par les meurtres de Lonnie Franklin Jr., il est temps d'enterrer la légende du faucheur dormant.
En août 2016, la juge Kathleen Kennedy prononce enfin son verdict. Il est condamné 10 fois à la peine de mort. Elle lui dit « Il n'existe aucune justification pour vos actions, car vos actions ne sont justifiées ni par les lois terrestres, ni par les lois divines. C'est un jugement admirable. »
La justice est un concept étrange. Certaines familles peuvent désormais tourner la page, mais bon, ça ne va pas leur rendre la personne qu'ils aimaient. Pour savoir si on leur a rendu justice, il faudrait le demander aux familles des victimes.
On dit qu'on fait notre deuil, mais ça reste difficile. Oui, dans un sens, on peut tourner la page. Le meurtrier a été attrapé, ok. Il paie pour les actes qu'il a commis, super. Mais je ne la reverrai pas. Chaque année, en août, le jour de son anniversaire, je me rappelle qu'on ne le fêtera pas. Je ne vais pas la voir se marier, sortir diplômée du lycée, faire des études supérieures, vivre sa vie. Il lui a tout pris. Et je ne peux rien y faire. Il est le seul responsable de sa mort. Point final. C'est lui qui tenait littéralement sa vie entre ses mains et qui a décidé de la briser. Il est le seul à blâmer dans cette histoire.
Lonnie Franklin Jr. patiente dans les couloirs de la mort de la prison de San Quentin pendant 3 ans et demi. Il est retrouvé mort à 67 ans dans sa cellule le 28 mars 2020. Lonnie emporte dans sa tombe le reste de ses secrets.
Penser que la police de Los Angeles a identifié tous les meurtres auxquels Franklin était lié, ce serait présomptueux de notre part. Il reste probablement des affaires dont on ne sait rien. Il travaillait pour le service de voirie. Il connaissait les trajets du camion, l'emplacement des poubelles qui seraient ramassées. Pendant la perquisition, on a trouvé des photos et des cartes d'identité de jeunes femmes qui ont disparu de la surface de la Terre. On n'a aucune idée d'où elles se trouvent. Et leurs familles n'ont jamais eu de leurs nouvelles. Je suis sûr qu'il en a tué d'autres.
Franklin est probablement l'auteur de bien d'autres crimes. Mais il a pu être condamné pour 10 d'entre eux. Si le faucheur dormant ne s'était pas éveillé en 2002, il aurait pu échapper à la justice.
Vous savez, s'il ne s'était pas remis à tuer après s'être tenu tranquille pendant 14 ans, on ne l'aurait peut-être jamais retrouvé. Il aurait simplement disparu de nos radars. Il aurait gardé son identité secrète jusqu'au bout.
Franklin était un prédateur sexuel, tuant par égoïsme et par plaisir personnel. Il attaquait des femmes vulnérables qu'il jetait ensuite comme de vulgaires déchets dans les poubelles du quartier de South Central, à Los Angeles. On retrouve dans son arrestation une forme d'ironie poétique. L'ADN qu'il aura laissé sur sa propre serviette jetée mettra un terme à la frénésie meurtrière de Lonnie Franklin Jr., l'un des pires criminels au monde.